Voilà, je vais vous partager une parole qui a toute son importance dans les Écritures et qui nous donne la perspective d'une vie chrétienne qui n'est pas seulement dans l'immédiat, mais qui voit loin. Et la parole de Dieu, ce qui est extraordinaire dans la Bible, en fait, la Bible parle de beaucoup de sujets, mais il y a quand même un sujet central, c'est le salut. Comment être sauvé ou par qui être sauvé. On est d'accord avec ça, j'espère. Jésus est le centre de la Bible, ou alors le Messie, ou alors le Sauveur, celui qui est mort pour nos péchés. Et la Bible nous donne beaucoup de détails sur sa venue, mais elle en donne encore plus sur son retour. Parce que si vous ne le saviez pas encore, Jésus va revenir en personne, en chair et en os, entre guillemets, même si c'est un corps de résurrection et glorieux qu'il a. Pas comme le nôtre. Et ce soir, j'aimerais vraiment partager là-dessus et sur ce que ça implique pour nous en tant que chrétiens, croyants, et puis aussi en tant qu'Église dans l'ensemble. Donc ce soir, on va parler du retour du Seigneur. Ce qui revient, et puis c'est la promesse, c'est the promesse, Jésus qui a dit « je vais revenir ». Aussi sûr et certain que le jour se lève, je vais revenir. Aussi sûr et certain que l'État d'Israël s'est créé en 1947, recréé, entre guillemets, Jésus va revenir. Tout ça, c'est lié à des promesses. Voilà, ceux qui sont passionnés de ce thème, c'est extraordinaire. Donc, la Bible certifie plusieurs choses à propos de Jésus. L'Ancien Testament, de la Genèse au dernier livre, c'est qui ? C'est Malachie, je crois, parle du Messie, de celui qui va venir. L'Évangile dit, le Messie est là, le Sauveur est là, Jésus est là. La preuve, il montre Dieu et il montre le royaume de Dieu. Ça, c'est dans l'Évangile, les quatre évangiles. Et puis le reste est du Nouveau Testament et l'ensemble de la Bible disent « Ce Messie qui est venu, il va revenir ». C'est extraordinaire. Plus je médite ce thème, je trouve extraordinaire non seulement la qualité quand il est parlé du retour de Jésus, la quantité de textes qui parlent de son retour, mais aussi l'importance de ce retour. Ça ne sera pas vite fait, bien fait, comme, excusez-moi, je balance, mais certains mouvements chrétiens qui ont dit « Jésus-Christ va revenir à telle date », puis ils ont vu qu'il n'était pas là, alors ils ont repoussé la date. Fino, les gars. Non, mais voilà, ça ne sera pas comme ça. Mais tout le monde va voir que Jésus va revenir. Ça ne sera pas l'humble Jésus qui est venu dans la crèche. Ça, c'était la première fois. Et c'était déjà glorieux, parce que les anges entiers ont chanté les louanges de l'Éternel. Mais ça sera glorieux au point que l'humanité entière, écoutez bien, l'humanité tout entière, les 8 milliards ou plus, je ne sais pas combien ça sera à ce moment-là, d'êtres humains, les animaux entiers, le règne de la terre entière, rajoutez-y les martiens si vous y croyez, je ne sais pas, mais tout le monde, l'univers entier, va voir que ce retour est là, ce retour de Christ. D'est en ouest, du nord au sud, tous les habitants de la terre vont être au courant que quelque chose se passe, que l'univers entier se déchire, que le monde invisible devient visible et que la gloire de l'Éternel, c'est quelque chose de concret. Et vous et moi, j'espère qu'on y sera dans cette génération-là ou celle d'après. Tout ça va se passer, tous ces événements, Jésus le dit, ça se passera en une génération. Alors le timing, je ne sais pas, mais ça se passera en une génération. On va parler de ça. Donc il y aura une génération qui verra le retour du Seigneur et les événements qui y sont liés. Ça, dans ma compréhension d'aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, je vous dirai « Ah non, mais un ange m'a dit que ça serait autrement, je ne sais pas. » Mais à vous de voir. Mais dans ma compréhension, quand Jésus dit dans Matthieu 24 que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive, ça veut dire que les événements du jugement qui vont juste suivre le retour de Christ, tout ça se passera en une génération. Jugement individuel, jugement des nations, jugement de la terre, etc. Tout ça. Et on va parler de ça ce soir. Le défi est énorme parce que j'ai 20-25 minutes pour vous parler de ça. C'est moins le quart. Waouh, ça va être short quand même. Mais voilà, disons l'essentiel peut-être par rapport à cela. En tout cas, l'essentiel concernant ce retour de Christ. Prenez avec moi 2 Pierre 3, versets 10 à 14. 2 Pierre 3, on l'a lu déjà jeudi soir, en préambule à la réunion de prière. 2 Pierre 3, Pierre c'est après les Hébreux, si jamais vous cherchez. 2 Pierre 3, qui est Pierre, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est celui qui était tout proche de Jésus, qui était leader des 12 dans son caractère, dans ses décisions. Il a fait un peu des bourdes des fois. Mais voilà, il était impulsif, mais déterminé en même temps. mais aussi celui qui, dans sa faiblesse, a renié Jésus lorsque c'était les temps difficiles. Eh bien, ce même Pierre a écrit deux lettres qu'on a ici retenues dans la parole de Dieu. Et le dernier chapitre de sa deuxième lettre, 2 Pierre 3, eh bien, nous parle du retour du Seigneur et comment ça va se passer. Et après quelques années où Jésus a informé la terre de son retour et ses disciples, eh bien, il remet ce thème principal dans l'Église par son message. Donc verset 10, c'est génial, t'es un pro, bravo. 2 Pierre 3, verset 10 à 14. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur », certains manuscrits rajoutent « dans la nuit ». Le jour du Seigneur, donc la venue du Seigneur, hein, c'est ça, viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra, vous voyez le ciel bleu, hein, disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Vous voyez votre maison, votre appartement là, vous le visualisez là, avant et après. Avant et après, ce qui se passera, désagrégement, je ne sais pas si c'est français, les éléments. Verset 11, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ?» Verset 12, « Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. » Mais nous attendons, verset 13, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. J'aime beaucoup ce dernier verset, là, cette dernière partie, que Dieu nous trouve dans la paix. Intéressant, hein? La Bible nous parle de catastrophes, de choses apocalyptiques, dans le sens de destruction de toutes choses. Et puis, vous les enfants de Dieu, pas de problème, coulez la vie dans la paix. Pourquoi ? Parce qu'on sait déjà, on est averti. On est averti de ces choses. Dieu, dans sa grâce, nous a laissé dans la parole de Dieu les écrits des prophètes pour nous dire ça va arriver. Alors, comment on est sûr que ça va arriver ? Eh bien, on peut déjà regarder à ce qui a été annoncé et qui s'est accompli. Par exemple, la venue du Messie, qui s'était annoncé son lieu de naissance, c'était annoncé des circonstances précises qui avaient autour de cette naissance, vous lisez tout ça dans ce qu'on appelle les petits prophètes, et c'était annoncé la mission du Messie, le Messie souffrant qui allait souffrir sur la croix. Et ça s'est accompli. Et ça s'est accompli. Et toutes ces promesses qui ne sont pas encore accomplies vont s'accomplir. Aussi sûr que je suis devant vous, que c'est du réel. On est dans ce monde, c'est du concret, n'est-ce pas? C'est du solide. Tout ça, ça va s'accomplir. Vous m'écoutez bien, hein? Ça va s'accomplir. Seigneur, je leur ai dit, ils ont entendu. Ça va s'accomplir, les choses vont s'accomplir, pas après pas. Elles sont écrites, les jugements vont s'accomplir. Et maintenant, on est averti, c'est formidable, quelle grâce de Dieu. On est rassuré parce qu'on sait comment ça va se passer. On pourra dire au monde quand les choses vont se passer, ou nos enfants, mais nous savions déjà ces choses-là. On était avertis et on s'est préparé en conséquence, parce que bien sûr, le fait de savoir nous appelle à nous préparer. Alors première chose, ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est qu'il y a un constat. Je le redis, Pierre parle ou nous écrit, et il nous dit, les amis, il y a une évidence, c'est que le jour du Seigneur viendra. Verset 10, le jour du Seigneur viendra. Comment il va venir ? Comme un voleur, rapide, un voleur efficace. Un voleur, ça ne traîne pas. J'en ai fait les frais il n'y a pas très longtemps. Le jour du Seigneur viendra. Et dans la parole de Dieu, c'est quoi le jour du Seigneur ou le jour de l'Éternel ? On trouve cette expression souvent dans l'Ancien Testament. C'est le jour où il y aura jugement. Et juste avant jugement, eh bien, la seconde venue du Messie. Il va revenir des cieux. Donc, voyez la chronologie biblique, ça c'est clair, c'est un élément qui est clair, c'est la venue du Seigneur, et la Bible nous dit qu'il est prêt dans l'Apocalypse, puisqu'il a une ceinture d'or autour des reins, de la poitrine, ça veut dire qu'il est prêt à se lancer sur ordre du Père. Jésus, là, il a déjà le billet de venue, on va dire ça comme ça, il est prêt de revenir, il est prêt pour cela, et ce jour-là va revenir. Du reste, quand on prend la Sainte-Seine, on proclame la venue du Seigneur. Nous la prenons jusqu'à ce qu'il revienne ou vienne. Exactement. Donc en attendant les noces de l'agneau, on prend un petit repas qui nous rappelle l'essentiel de son amour. C'est une évidence. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5 nous parle de la résurrection aussi et de ce jour du Seigneur. Mais comme les choses tardent, les prophètes, ça fait quand même longtemps qu'ils ont dit ces choses-là, ce retour du Seigneur. Alors l'impatience peut nous guetter. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 3 de ce chapitre de 2 Pierre 3, il est dit ici, « Sachez que dans les derniers jours, » donc la Bible parle de « derniers jours », c'est tout ce qui concerne les éléments de la fin, « dans les derniers jours viendront des moqueurs. » Les amis, soyons pas des moqueurs en disant « ouais, ben on voit rien pour l'instant ». Ça, c'est le cynisme. Attention, le cynisme qui pourrait gagner ton cœur ou l'Église. On attend qu'il vienne. Pour l'instant, on voit rien. Alors, on fait comme d'habitude. On fait nos affaires. Non, soyons attentifs à cela. Ce que nous dit la Bible par rapport au jour du Seigneur et à sa venue, c'est que ça sera rapide. Yes. Et quand Jésus va revenir, le jugement sera rapide. Ça sera clair, ça sera net, rapide. Sa venue sera là. Jésus le dit lui-même, c'est dans Matthieu 26, verset 64, lorsqu'il est question, on lui pose la question, mais est-ce que tu es le Messie, à son prophète? Jésus répond, tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant, venant sur les nuées du ciel. En fait, quand Jésus va revenir, il sera dans sa gloire. Il sera pas dans une condition humble, modeste, humaine, mais il va venir dans sa gloire, une gloire telle que personne ne l'a vue jusqu'à présent. Il y a le ciel et la terre qui seront visibles de tous, le monde invisible sera là, visible, et Jésus va venir en gloire. Et croyez-moi, ce jour-là, personne fera le malin. Les moqueurs auront la bouche fermée, les rebelles, les personnes à qui vous aurez témoigné, qui aujourd'hui se moquent. Attention à ces personnes-là, hein. Elles feront plus les malins ce jour-là. La crainte de Dieu, tout le monde sera à genoux, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur ce jour-là. Personne ne fera le malin en disant hey, « toi qui es là-haut, comme sur la croix hein. ». Tout ça, les amis, la gloire sera tellement forte, tout le monde sera par terre. Je pense que même les animaux, ils vont vénérer ce moment-là. Les animaux, j'imagine ça, hein. Peut-être je délire, mais j'en sais rien. Les animaux qui ont été enfermés dans le péché. La crainte de Dieu viendra ce jour-là. Personne ne fera le malin. Et ça, ça me réjouit. Les enfants de Dieu se réjouiront de voir leur Sauveur face à face. Se réjouiront de voir leur Sauveur. Ah Seigneur, enfin que tu es là. Gloire à toi, agneau de Dieu, etc. Si vous n'êtes pas encore à Christ ce soir, enfin maintenant, mettez-vous en règle avec Dieu. S'entraîner. Mettez votre vie dans les mains de Dieu. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous perdiez la vie. Mettez tout en ordre devant Dieu. Le petit problème lorsqu'on lit Pierre ici, c'est qu'on peut devenir moqueur ou cynique parce que les choses tardent. Mais Pierre répond à cela. Et il dit au verset 11, je crois que c'est verset... Non, excusez-moi. C'est le verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Voilà la raison qui, à notre échelle, nous empêche qui nous pousserait peut-être à l'impatience et qui nous guetterait. C'est que l'échelle de Dieu, la montre divine, n'est pas la même que la nôtre. Alors j'ai une petite blague, vous avez peut-être déjà entendu par rapport à ça. Maurice va prier et s'adresse à Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que pour toi 100 millions de francs ?»« Pour moi 100 millions, c'est 10 centimes, » répond Dieu. Maurice reprend ses prières après quelques instants, il réfléchit. Hein. « Dieu, qu'est-ce que pour toi l'éternité ?»« L'éternité, » répond Dieu, « c'est une seconde pour moi. » Après un instant de réflexion, Maurice dit, « Dieu, pourrais-tu me prêter 10 centimes ?»« Oui, mais attends une seconde, » réplique l'Éternel. Voilà, on n'a pas la même échelle. C'est pas de moi, hein. J'ai chopé sur Internet. Nous déplaçons facilement, par exemple dans nos journées, nous déplaçons facilement d'une heure à l'autre une chose. Ah bah tiens, je vais téléphoner à un tel à telle heure. Puis une heure après, on se dit, attends, j'attends encore une demi-heure. Puis voilà, une heure et demie après. Bien, une heure et demie après, peut-être qu'on pourrait dire pour Dieu, c'est, je sais pas, 500 ans. pour nous. Vous voyez, si on ramène les choses à notre échelle, c'est peut-être voilà quelques minutes, une heure, etc. Le timing est dans la main de Dieu. Il ne nous appartient pas. C'est la raison pour laquelle on peut se poser des questions. Mais que faire dans cette période-là? Comment réagir? Eh bien, Pierre ici nous décrit deux choses importantes. Premièrement, au verset 8, ne pas s'alarmer trop vite. Si Jésus n'y a pas tout de suite, il y avait une urgence dans la première église, alors Pierre est obligé de leur écrire, donc on se calme par rapport à ça. Il viendra, il reviendra. Ne tombons pas dans le cynisme, ça je l'ai dit, mais une chose importante, en attendant sa venue, c'est un comportement moral exemplaire, comme Jésus. On pourrait se dire, mais puisqu'il ne vient pas, mangeons, buvons, faisons tout ce que nous voulons, et puis quand il sera là, ben, on mettra les choses en règle. À la dernière minute, on réglera tout ce qu'il faut. Non, les amis, ça, c'est pas juste. Hein. C'est pas juste. Maintenant qu'on est au courant qu'il va revenir, on sera jugé. Mais Jésus nous appelle à avoir un comportement moral exemplaire. Deuxième chose, c'est au verset 11, je vais le relire. Verset 11, « Puisque tout notre monde doit être dissous, combien notre conduite et notre piété doivent-elles être saintes ?» Donc, premièrement, avoir un comportement moral exemplaire, de jour comme de nuit. Nuit et jour, on n'est pas seulement chrétien le dimanche, mais tous les jours. Et ce que je suis en train de dire, je suis conscient que les exigences morales de la parole de Dieu sont tellement élevées que c'est difficile d'y arriver. D'où l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies et la vie communautaire. Quand on est ensemble, on s'encourage vers le bien. On s'encourage à patienter, on s'encourage à marcher dans la sanctification. Et puis le deuxième point, il est question ici non seulement de comportement, mais de piété. Qu'est-ce que la piété ? C'est un amour pour Dieu qui est mêlé de tendresse et de respect. Ça balaye tout ça, l'idée d'une fausse crainte de Dieu, d'une peur de Dieu. Mais l'amour pour Dieu, mêlé de tendresse et de respect. Seigneur, mets en nous, Seigneur, dans ta grâce. Fais grandir en nous ce comportement moral exemplaire à l'image de Jésus. Donne-nous la crainte de ton nom. L'amour pour ton nom, Seigneur, c'est ce qui compte. Mêlé de tendresse et de respect. Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, je te respecte parce que tu es le seul Dieu saint, le Dieu saint. Et un jour, je viendrai en jugement devant toi. Parlons encore plus du jugement par rapport à cela. La Bible nous apprend dans Matthieu 24 qu'il y aura plusieurs jugements. Il y aura un jugement des nations. Imaginez, quand c'est le jour J, la Suisse arrive devant Dieu. Toute la Suisse sera jugée, les habitants, hein, pas la géographie, mais tous les Suisses, depuis le début. J'imagine aussi peut-être un ange qui va rappeler, pourquoi pas, les épisodes de vie de la Suisse qui s'est passé, les bonnes choses et certainement les moins bonnes. La Suisse sera jugée. Jugée par rapport à quoi? Par rapport au bien qu'elle aura fait. Et toutes les autres nations avec, tous les autres peuples. Je ne sais pas s'il faut comprendre nation ou peuple, ça je ne sais pas. Ça appartient à votre compréhension et à la parole de Dieu. Mais en tout cas, il y aura jugement par rapport à ça. Quand avons-nous fait le bien, etc. Mais là, vous avez fait le bien, etc. Et tout ce qui est mal, ben, sera aussi condamnable, bien évidemment. Il y aura d'autres jugements. Pour les croyants, il n'y aura pas un jugement verdict condamnatif, destructeur ouais, de vie, mais il y aura le tribunal des récompenses, basé sur notre fidélité, la fidélité à Dieu, l'amour pour Dieu. Et si tu prophétises aujourd'hui, fais-le par amour pour Dieu et pour son peuple. Si tu pries pour les malades, fais-le pas dans un esprit de compétition, mais fais-le guidé par l'esprit dans un amour pour Dieu, dans une communion avec lui. Si tu témoignes, fais-le pas parce qu'il faut témoigner de ta vie chrétienne, mais fais-le parce que tu aimes Dieu et tu aimes les autres. Voilà, Jésus nous rappelle dans ce passage les motivations de notre amour. On sera évalué par rapport à ça. Et si on a été fidèle là-dedans, même si apparemment vous avez peu de fruits, ou beaucoup de fruits visibles, eh bien, le Seigneur va vous dire, c'est bien, bon et fidèle servante, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 villes dans la période qui viendra après la destruction. C'est génial, ça, hein? Extraordinaire. On va régner si on est fidèle. Ceux qui disent aujourd'hui, mais moi, je veux pas régner, je vais être tranquille sur ma chaise longue, dans les nouveaux cieux et les nouvelles terres. Je crois pas que c'est le bon plan. À mon avis, c'est pas le bon plan. Travaillons, la Bible nous dit, avec crainte et tremblement à notre salut. Parce qu'on risque sinon d'être comme le gars qui a mis son talent dans la terre. Ce que tu as reçu de Dieu, faut le faire travailler. Qu'as-tu reçu? Et on nous exhorte dans l'Église, les uns les autres, par les uns les autres, à travailler pour le Seigneur et à faire le mieux. Autre chose par rapport à tout ça, ça arrivera le jour de l'Éternel, nous dit la Bible. Voilà, Dieu n'est pas à même de juger pour juger, mais il va juger les impies. Tous ceux donc qui refusent le règne de Dieu, tous ceux qui s'opposent à lui. Waouh, merci Seigneur. Ça sera un jour de délivrance pour le peuple de Dieu, qui vit dans bien des endroits sur la terre de la persécution. Imaginez nos frères et sœurs qui sont maintenant persécutés dans leur famille, dans des familles musulmanes, on est en train de tuer en ce moment des chrétiens, des personnes qui ont découvert Jésus. Ils sont pas persécutés parce qu'ils sont chrétiens, ils sont persécutés parce que Jésus est en eux. Ils sont porteurs du nom de Jésus. Et les démons ne supportent pas ça. Donc il y a une réaction démoniaque et qui juge et qui condamne. Ben ceux-là vont être délivrés. Quand Seigneur, on doit encore subir ça? Combien de temps? C'est l'Apocalypse qui dit ça. On va subir ça Seigneur. Encore un petit peu de temps. Encore un peu de temps, dit Jésus à ses bien-aimés qui souffrent. Et ils seront à quelque part rétribués par le jugement de ceux qui seront sans repentance, sans repentir. Ça, tout ça, ça appartient à Dieu. Hein. Mais quand même, c'est un signe de réjouissance. Ceux qui tuent et qui font du mal et du tort au peuple de Dieu et à Jésus lui-même, ceux-là même seront jugés. Pour moi, c'est un soulagement. Je veux dire, waouh, il y aura une justice. Du reste, c'est la promesse par excellence. La justice régnera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Laissons faire le Seigneur par rapport à cela. Par rapport au jugement aussi, tout cela se trouve dans Matthieu 24 et aussi à la fin du livre de l'Apocalypse qui nous parle de la délivrance. Voilà, je mettrai sur Internet avec ce message une feuille qui concerne ce jour de l'Éternel. Vous pourrez la lire, la méditer. Je m'inspire de quelques commentaires et autres dictionnaires bibliques. Donc deux choses que nous sommes appelés à faire. Verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, tout ça, ça va disparaître, notre conduite doit être sainte, notre piété doit être sainte. Comment pratiquement faire ça? Il ne s'agit pas d'être guindé, d'être raide comme des bâtons dans notre vie chrétienne. Comment vivre ça? Posons-nous cette question ce soir. Eh bien, peut-être, moi je vous propose un objectif. Si nous sommes appelés à avoir une conduite sainte, ça passe par nos pensées. Hein? Jésus a bien dit que ce qui va travers dans ce monde, ça vient du cœur de l'homme. Ce n'est pas la peine de crier sur tous les gouvernements, etc., de manifester. Ce qui va mal, ça vient du cœur de l'homme, de mon cœur. Et ce qui vient de mon cœur se transforme en pensée. Et si mes pensées, je les poursuis, ça se transforme en action. Donc moi, je vous propose de laisser le Saint-Esprit régner sur vos cœurs et sur vos pensées et de protéger cette semaine concrètement nos pensées. Qu'est-ce que tu vas penser? Qu'est-ce que je vais penser cette semaine? Eh bien, la Bible nous invite à mettre une garde à nos pensées et à les remplir, non pas de mauvaises choses qui pourraient venir, mais de bonnes choses. Philippiens 4:8, et c'est le premier défi que je nous lance. Philippiens 4:8, donc, veillons à ce que notre comportement soit sain, et donc nos pensées, et Philippiens 4:8, pour ceux qui aiment un peu la philosophie, etc., prenez ces versets, c'est à se délecter, je trouve. Réflexion, méditation, philosophie dans le sens de méditer. Verset 8, « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. » Donc, on balaye le mensonge cette semaine, ça va glorifier Dieu. « Tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » En fait, le Seigneur veut régner dans nos pensées. Alors, premier objectif, je vous propose de saisir cet objectif et de dire « Oui, Seigneur, fais cette prière, viens régner dans mes pensées. » Puis on fait le tri. Si ça n'a rien à voir avec la liste qui est là, ce qui arrive dans nos pensées, voilà, on laisse passer, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? N'accueillons pas ces pensées-là. Demandons l'aide du Saint-Esprit pour veiller sur notre conduite. Deuxième objectif que je vous propose, comment exprimer notre amour? Donc, la piété sainte, c'est exprimer notre amour à Dieu. Moi, je vous propose, par exemple, si vous regardez ou lisez les nouvelles cette semaine, eh bien, une fois que vous avez vu le TJ ou lu le 20 minutes ou ce que vous voulez, j'en sais rien, eh bien, vous vous arrêtez, vous prenez une minute ou deux, puis vous exprimez votre amour pour Dieu en bénissant les personnes qui ont été mentionnées. Si on parle du Conseil fédéral, vous arrêtez, vous dit Seigneur, tu aimes tellement ces personnes, révèle-toi à elles. Ça, c'est manifester aussi notre amour pour Dieu. Hein, c'est tout pratique ce que je vous propose. Veillez sur ses pensées. Deuxième chose, s'arrêter si on regarde les nouvelles et prier pour un des sujets, de ce que vous voulez. On n'a jamais assez de sujets de prière et le TJ, c'est une bonne liste de sujets de prière, je trouve. Voilà, on s'arrête et on pose tout ça, 2 minutes. Et vous priez pas en disant, ouais, tu vois, comme ce pays que j'habite, il est vraiment... Non, vous arrêtez, dites, attendez, on a mentionné des gens, il y a peut-être des rumeurs qui sont rapportées, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Seigneur, toi, tu sais, je t'apporte ces personnes-là. Même Jésus, qui souffrait le martyre sur la croix, il a prié comme ça. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Alors, je vous propose ces prières d'amour pour ceux que vous aurez vus ou lus dans les journaux ou les médias. Et puis, un troisième objectif, vous piquez ce que vous voulez. Soit vous faites le numéro 1, qui est... Vous vous rappelez, c'est quoi le numéro 1? Ouais, veillez sur ses pensées, Philippiens 4:8. Soit vous prenez le numéro 2, exprimez son amour, la piété, en priant pour quelqu'un ou quelqu'un que vous avez vu au TJ, c'est le deuxième objectif. Soit le numéro 3, on va regarder et on s'arrête là après. Eh bien, ou les 3, si vous voulez faire les 3, vous faites les... Qu'est-ce qu'on dit à l'école? Oui, bref. Le numéro 3 que je vous propose, et c'est le verset 13 de Pierre 3. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. En fait, ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce passage, ok, les éléments vont disparaître. Ok, le ciel et la terre, il n'y en aura plus. Mais il ne faut pas se fixer sur ce qui va disparaître et sur le jugement qui est à venir. Il faut se fixer sur ce qui viendra après. Nouveaux cieux, nouvelle terre. Quand quelqu'un déménage, il est focus dans son esprit sur le nouvel appartement, la nouvelle maison, s'il l'a fait construire, etc. On est d'accord, hein. Il s'arrête pas sur son ancienne maison en disant, oh, je t'aime ma maison, mais il va regarder sur la nouvelle maison. Eh bien, fixons nos regards sur ce qui est à venir. Et la Bible nous dit, conformément à sa promesse. Moi, je vous propose d'écrire autant de fois que vous voulez, Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, 17. Et puis vous fixez cette semaine, une fois, deux fois, trois fois, la promesse sur le frigo, vous y réfléchissez, vous la mettez et vous méditez là-dessus. Vous arrêtez Ésaïe 65, 17. Le premier qui l'a, il le lit.
Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit.
En fait, voilà, Dieu va créer des nouveaux cieux et nouvelles terres. Je ne sais pas comment vous imaginez ça. Ceux qui aiment écrire, je vous propose, vous prenez ce verset, vous faites un petit texte par rapport à ça. Ceux qui aiment rêvasser, rêver, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, prenez ce verset. Comment va être, voilà, ce texte, par exemple, si vous écrivez, ça serait génial qu'on puisse collecter plusieurs textes comme ça, ou plusieurs dessins, je ne sais pas, pourrait commencer comme ça. Je vois sur cette nouvelle terre la possibilité de... Par exemple, comment ça va être ces nouveaux cieux et nouvelles terres? La Bible nous parle de ça, ça va être formidable. Et ben pourquoi pas, essayer de trouver des versets par rapport à ça. Je trouverais génial si on arrive à les mettre en commun. Vous écrivez en portugais, vous écrivez tout ce que vous voulez. Comment seront ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres? C'est la nouvelle maison, le nouveau royaume qui sera habité. Il n'y aura plus tout ça sur la terre. Tout ça, c'est enfermé. Là où on vit, c'est enfermé dans le péché, dans le mal. Et l'adversaire de nos âmes peut encore essayer d'écraser, etc., de tuer ou d'égorger. Mais Dieu a préparé des choses. Et dans ces nouveaux cieux, nouvelles terres, il y aura une nouvelle ville qui va descendre du ciel. La nouvelle Jérusalem, glorieuse, extraordinaire, faite de trésors fabuleux. C'est pas des bobards, tout ce que la Bible nous dit. C'est vraiment sérieux et c'est vraiment glorieux ce qui était à venir. Alors, 3 objectifs que je vous rappelle. Puis après, Samuel, c'est à toi. Pour la Sainte-Seine, ensemble. Objectif numéro 1, comment garder ses pensées cette semaine. Numéro 2, exprimer son amour en priant, comme Jésus l'a fait. Et numéro 3, écrire cette promesse et puis divaguer là-dessus, rêver là-dessus, imaginer là-dessus. Comment sera ma nouvelle maison, etc. Faites-le avec l'aide du Saint-Esprit et ça va graver quelque chose dans votre cœur. Pourquoi on fait ça, en fait? Voilà, c'est que ça va graver quelque chose dans notre cœur. Quelque chose va être là pour dire, oui, le Seigneur vient bientôt. L'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et quand l'Épouse, l'Église, commence à chanter ce chant, ensemble, l'Esprit et l'Épouse disent, viens, on chante, on proclame, on prie ça, viens Seigneur Jésus. Viens dans ton règne, viens établir ton règne, fais ce que tu as à faire en attendant, alors le jour du Seigneur sera hâté, parce que nous allons nous préparer pour cela, nous allons nous sanctifier pour cela.